Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 janvier, ravis de commencer cette semaine avec vous, avec toi Andy, salut.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va très bien, toi aussi j'espère.
Oui, parfaitement, parfaitement.
Parfaitement, parfaitement. Pour cette parfaitement, dis donc, on ne peut pas rêver mieux. D'ailleurs, j'avais même pas rebondi pour donc commencer cette émission. Aujourd'hui, au sommaire, on va parler de la manif du service psychiatrie de l'hôpital de Laval qui a eu lieu vendredi dernier avec beaucoup de revendications, pardon, vous l'entendrez. Et puis, l'interview a été faite par Andy aujourd'hui.
Et oui, j'ai pu parler avec Émilie Loiseau, enfin m'entretenir avec elle. Elle se produira à Château-Gontier cette semaine, au carré.
Le jeudi soir, et donc là c'est l'occasion de revenir sur son nouvel album. Et puis on entendra aussi une toute jeune chronique, toute nouvelle, la chronique de la Maison de l'Europe, qui nous parlera aujourd'hui des bienfaits de la langue allemande. Et oui, en tout cas il y a de moins en moins de Français qui apprennent l'allemand, et pourtant il y a plein de bonnes raisons pour le faire, c'est ce que vous entendrez à la fin de cette émission. Mais d'abord on va faire un point sur l'actualité avec Olivier Richefou qui soutient Valérie Pécresse.
Le président du conseil départemental de la Mayenne a annoncé sa décision de soutenir la candidate Les Républicains pour l'élection présidentielle, mais il ne parrainera pas de candidat après avoir consulté la majorité départementale. De son côté, l'eurodéputée mayennaise Valérie Ayé apporte son parrainage au président de la République, pas encore candidat officiellement à sa réélection. Les maires et conseillers départementaux ont jusqu'au 4 mars pour envoyer leur parrainage au conseil constitutionnel.
Et cette semaine, si vous avez besoin de vous faire tester pour la Covid, eh bien vous pouvez aller dans différents endroits.
Comme le centre de dépistage de Château-Gontier, il reste ouvert jusqu'aux vacances scolaires à la halle du Haut-Anjou. Des tests antigéniques sont proposés de 9h à 17h du lundi au vendredi et de 8h à midi samedi, mais aussi ailleurs en Mayenne, à Andouillé aujourd'hui, demain à Mélay-du-Maine et à Loiron, mercredi à Martigné-sur-Mayenne et Évron, jeudi encore une fois à Mélay-du-Maine et vendredi à Montsûr et La Baconnière.
Une octogénaire échappe à une explosion dans sa maison.
Et oui, l'accident a eu lieu samedi soir vers 21h, rue de la Madeleine à Port-Brié. L'explosion due à une bouteille de gaz n'a pas provoqué d'incendie, mais a fait s'effondrer la toiture et une partie du plafond. L'occupante, âgée de 87 ans, n'a heureusement pas été blessée. Elle a été transportée au centre hospitalier de Laval pour un contrôle et sera ensuite relogée dans sa famille.
Et puis dans le Nord-Mayenne, près de 800 personnes dans une rave party à Marcilly-la-Ville.
Et oui Marie, elles se sont réunies dans le bois de Bulleux en fin de soirée ce samedi à l'initiative de 5 personnes. La gendarmerie s'est rendue sur place hier matin et a décidé d'un commun accord avec les fêtards d'une interruption vers 14h. 200 à 250 véhicules garés près du site ont quitté les lieux pendant l'après-midi.
Et puis à Laval, les urgences de nuit ferment à nouveau demain soir.
Toujours touchées par un manque de médecins, les urgences ne seront pas accessibles directement demain entre 18h30 et 8h30 du matin mercredi. Sur cette période, vous devrez d'abord appeler le 15 ou le 116-117 avant d'être accueilli si besoin aux urgences.
L'exposition de Pierre Ardouvin à Château-Gontier fermée pendant 3 jours.
Jusqu'à 14h ce mercredi, en raison d'une absence de personnel positif au Covid-19, l'exposition d'art contemporain à la chapelle du Jeune Étail est donc fermée ce lundi et mardi toute la journée.
Et puis pour la 4e année consécutive, Laval Mayenne Technopole organise le West Data Festival.
Oui, le rendez-vous annuel des professionnels pour maîtriser et comprendre la gestion des données aura lieu demain et mercredi à l'Espace Mayenne. Ce festival permet de rencontrer des experts, de se former à l'utilisation des données, de tester des solutions et d'échanger. Plus d'informations sur laval-technopole.fr.
Et puis Andy, on en parlait tout à l'heure, les urgences ferment à nouveau la nuit. Et puis eux aussi manquent de lits et de personnel à l'hôpital de Laval. Le service psychiatrie a manifesté vendredi dernier entre leurs locaux et l'accueil du centre hospitalier de Laval lors d'une marche qui a rassemblé pas moins de 150 professionnels. Une forte mobilisation pour dénoncer un ras-le-bol et alerter sur le manque de lits, mais aussi sur la crise des vocations. Témoignage de plusieurs soignants et notamment celui de Sylvain Biel, infirmier en psychiatrie et représentant force ouvrière à l'hôpital de Laval.
C'est pas le ressenti des patients qui ont parfois, souvent, l'impression d'être mal pris en charge. Mais nous, on sait qu'on fait au mieux, qu'on donne tout ce qu'on peut. Le reste ne nous appartient pas. Le reste ne nous appartient plus. L'impuissance nous habite, souvent. La frustration l'accompagne. Et finalement, on vous préfère mécontent plutôt que mort.
Concrètement, ça veut dire demain la fermeture de 22 lits en psychiatrie adulte, un quart des lits du bassin lavallois. Et ça veut dire depuis décembre 5 lits sur 8 de fermés à l'UZCA, qui est un service d'accueil d'hospitalisation complète pour les enfants et adolescents en psychiatrie. Ça implique quoi derrière? Ça veut dire une difficulté d'accès aux soins qui se majore. On connaît tous la situation du département, qui est un désert médical. L'accès aux soins, il est aussi de plus en plus difficile à l'hôpital même. On va être obligé, entre guillemets, de faire des choix. Il y a des patients qu'on aurait pu plus facilement hospitaliser vont rester chez eux ou rester avec un suivi ambulatoire, c'est-à-dire en ville, donc beaucoup plus fragile, un suivi où voilà, on sait qu'on prend des risques, entre guillemets. Et on a des effets de façon déjà concrets, notamment chez les enfants, où notamment le service de pédiatrie à l'hôpital, qui est vraiment en grande difficulté parce qu'il est submergé par des adolescents en souffrance. C'est pas forcément sa mission première, même s'il a des lits dédiés pour ça, là il est vraiment submergé par ça, son personnel forcément formé et préparé à ça.
Alors moi je suis psychologue au centre hospitalier de Laval depuis 2015 maintenant. L'hôpital est en crise depuis plusieurs dizaines d'années, mais c'est vrai que là, la psychiatrie de Laval connaît un moment crisique avec un redéploiement de services de soins de suite qui accueillent des patients qui ne sont pas capables de vivre seuls, de manière autonome, du fait de leurs troubles psychiques. Et ce sont ces patients-là que l'on fait sortir de manière, en ce moment, intempestive et dans des conditions indignes. Ce qui fait qu'on se mobilise aujourd'hui pour pas que ces services ferment de manière définitive. Ils sont hospitalisés sur les soins de suite depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pour certains d'entre eux. C'était devenu un lieu de vie et c'est plus possible aujourd'hui en psychiatrie. Alors, l'hôpital n'est pas un lieu de vie, mais pour certains patients qui sont hospitalisés au long cours, c'est le besoin qu'ils ont pour se tenir dans leur vie.
Et pour aider leurs collègues de l'hôpital à faire face à la crise sanitaire, près d'une trentaine de soignants du service psychiatrie ont déjà été redéployés ailleurs dans d'autres services. On va entendre d'ici quelques minutes Émilie Loiseau qui nous présentera son nouvel album avant de se produire à Château-Gontier jeudi. Mais là, on va entendre un autre groupe de luxe avec leur titre Monday.
Rolling in the sun with someone infatuated. With all my okey-dokey syndromes, then fully clothed. This kitchen got domestic dangers, we once had sacred. Before time desecrated, some days of days we dance beneath the rain. Consider we force a change of hearts and rearrange. Can I keep them hot days for my own? Leave it up to Tuesdays, your day. Go together Wednesdays, long run. We go together, we go together. So can I keep the money? Naked on some days and days we dance beneath the rain. Consider we force a change of hearts and rearrange. Can I keep them hot days for my own? Leave it up to Tuesdays, your day. Go together Wednesdays, long run. We go together, we go together. Can I keep the Mondays for my own? Beat it up to Tuesdays, your day. Go together Wednesdays, long run. We go together, we go together. Can I keep the Mondays? Leave it up to Tuesdays. We go together Wednesdays. You know I love you, babe. You know I love you, babe. Can I keep the Mondays?
Monday Deluxe dans la JT du local sur l'autre radio. Et on reste en musique avec Émilie Loiseau qui se produira cette semaine d'ici quelques jours au Carré à Château-Gontier, Andy.
Et oui, son premier album date de 2009 et se nomme L'autre bout du monde. Elle en est maintenant à son cinquième avec Icar qu'elle a sorti en septembre dernier. La chanteuse franco-britannique nous parle de son nouvel album dont elle est productrice pour la première fois de sa carrière.
C'est un disque peut-être plus rock que les précédents. Un disque engagé, un disque de mettre en partage ce qu'on a, je pense, tous ressenti ces dernières années quant à cette pandémie, ce qui nous a à la fois tenus très éloignés les uns des autres, et puis la noirceur de ce qui s'annonce et de ce qui s'annonce pour des générations futures, et que ce soit les dérèglements climatiques, les problèmes migratoires. C'est un disque qui à la fois essaye de chercher de la lumière et de dire que voilà, on peut se soulever, on peut se mettre ensemble, on peut se construire autre chose. Mais qui essaye aussi tout simplement de partir d'un constat intérieur de ces bouleversements et de ces séismes qui nous affectent, qui nous ont un peu tous arrêtés pendant cette période de confinement où je pense qu'il y a eu une sorte de décharge électrique, quoi, qui nous a un peu fait prendre conscience que quelque chose n'allait pas. Mais c'est pas un disque déprimant pour autant. Je voulais justement qu'il soit plus rock, qu'il ait cette énergie de vie très forte. Parce que je voulais qu'avant tout il cherche de la lumière, quoi. Donc je suis allée l'enregistrer en Angleterre avec John Parrish, qui est un musicien, producteur incroyable, notamment pour Pete Harvey. Et voilà, avec mes musiciens, on est partis là-bas et ça a été une très belle rencontre, un très beau moment. Et ce disque est maintenant sur scène.
Ok. Et est-ce que le fait de travailler avec John Parrish, cela vous a aidé à développer ce côté un peu plus rock?
Ah, c'est pour ça que j'allais le voir. J'avais déjà le groupe et les musiciens avec qui je travaillais pour cela. On a construit les arrangements ensemble, eux et moi. Et on envoyait ensuite les maquettes à John régulièrement. Il a été le metteur en scène un peu de ce travail qu'on avait fait. Il a été le regard extérieur. Il a été le producteur, celui qui a été chercher le son et la manière d'enregistrer qui lui semblait nous correspondre le mieux. Et puis, qui a su aussi mettre en lumière nos arrangements ou les modifier légèrement quand ça lui semblait nécessaire, mais ça a été vraiment très. Il y a une grande évidence en fait. Mes musiciens travaillent avec lui, pour certains en tous les cas, travaillent avec lui régulièrement sur d'autres projets, et ça, je pense, contribuer à ce qu'il y ait cette grande évidence et ce grand naturel dans notre manière de collaborer. Et puis il aimait beaucoup les chansons. Je crois qu'il aimait beaucoup ce qu'on avait construit. Donc ça a été comme une fête un peu. Et effectivement, il a amené ce son qui le définit, qui lui est propre, et aussi cette énergie très, très live, très brute. On n'essaie pas de mentir, on essaie juste de raconter une histoire.
Et du coup, vous avez sorti en 2021 votre nouvel album Icar. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel environnement vous l'avez écrit?
Ben, je l'ai écrit pendant le confinement. J'avais démarré avant, pas loin de chez moi, à Montreuil, et dans un endroit assez chouette qui m'était mis à dispo parce que je suis en train de construire un studio chez moi, mais pas encore prêt. Ça s'appelle la Maison de Musique à Montreuil, qui est un endroit qui essaie vraiment de faire vivre la musique dans les quartiers plus difficiles et de donner l'accès dans les écoles et à tous à ce souffle vital qu'est la musique. Et ils font un travail assez extraordinaire. Donc j'étais heureuse d'être là, dans cette maison, pour y travailler. J'avais une pièce à dispo.
Et pourquoi ce nom Icar? Enfin, on peut aussi prononcer Icar en anglais, c'est ça?
En fait, au départ, c'est le nom d'une des chansons. C'est une chanson qui a ce côté discret et énigmatique, mais en même temps, qui est un peu la fable du disque, ou la morale de la fable, s'il devait y en avoir une. C'est une chanson où je parle de ce tableau de Bruegel qui s'appelle La Chute d'Icar, que j'ai vu, ce tableau que j'ai vu en Belgique, j'étais au musée de Bruxelles, et qui est en fait un tableau qui c'est un paysage comme ça, typique des paysages de la Renaissance, où on s'imagine qu'on est en Italie, qu'il y a un soleil radieux, il y a des vignes, il y a quelqu'un qui laboure un champ, qui regarde vers le ciel. C'est un paysage tranquille et on se demande trouver cette chute d'Icare. Et en fait, on finit par comprendre qu'elle est tout en bas du tableau à droite, mais que tout le monde, est, y compris nous, regardons ailleurs. Et je trouvais ça très, très belle métaphore de ce qu'on vit en ce moment. En fait, on va dans le mur, mais on regarde ailleurs. Parce que ça fait trop mal, ça fait trop peur, parce qu'on veut pas le voir, parce qu'on préfère se dire que ça nous concerne pas. Mais ce mur climatique nous concerne tous et il concerne déjà beaucoup de gens. Et voilà. Donc, ce nom, j'y pensais et puis je le trouvais un peu grandiloquent. Peut-être un peu trop, plus grand que moi. Et au final, dans l'écrivant, je me suis rendu compte que, effectivement, en détachant le i de car, je pouvais l'imaginer comme I care, qui serait la face solaire de la pièce, quoi. À la fois, il y a un drame qui se joue et de l'autre côté, en prenant soin de cette planète, en prenant soin de nous-mêmes et des autres, en gardant ça comme un mantra, et ben, il y a une solution, quoi. Voilà.
Et donc, vous êtes pour la première fois productrice de cet album, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et donc, pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça change dans votre vision de créer un album ?
En fait, pour ne pas cracher dans la soupe et rendre hommage à ceux avec qui j'ai collaboré jusque-là, j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Et on m'a toujours donné les moyens de faire les disques que j'avais pensé, de la manière dont je le pensais. Et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. On m'a jamais forcé la main de quoi que ce soit. Évidemment, il y a toujours des tensions, des pressions quand les grosses maisons de disques investissent beaucoup d'argent, mais ça a toujours été très rationnel et on m'a toujours laissé travailler et respecter mes choix. Néanmoins, d'un point de vue éthique, d'un point de vue artistique, dans ma manière de considérer la vie et ce monde, de penser, et à force d'essayer de faire à tout prix quelque chose qui rentre dans une rentabilité commerciale et de mettre ce prisme-là avant tout, finit par plus savoir trop ce qu'on défend comme art, comme parole. Qu'est-ce que c'est que ce souffle ? Qu'est-ce que c'est qu'on dit ? Et qu'est-ce qu'on est en train de dire aux gens, en fait ? Voilà. Donc, j'avais envie de reprendre la main sur ces choses-là, de faire ça à ma manière, de réunir une équipe avec laquelle je partage ces convictions-là, et d'être dans le plus petit, non pas dans le plus petit des ambitions, parce qu'on a tout autant d'ambitions pour ce disque et cette musique et pour les disques à venir, mais d'aller dans une démarche qui soit respectueuse de tout. Ça, c'est une première vision, en fait, un peu, je dirais, éthique, politique et voilà, artistique de tout ça. Et puis ensuite, il y a aussi quelque chose de bien plus pragmatique, qui est que à la fois effectivement c'est une prise de risque parce que on investit de l'argent et tout ça, mais en même temps, en tant que simple auteur-compositeur et chanteur aujourd'hui avec le streaming et tout ça et les choses qui ont été dilées un peu n'importe comment et à l'envers avec les grosses plateformes numériques et les GAFA, ben en tant qu'artiste, on gagne pas vraiment sa vie, quoi. Et ça devient compliqué, en fait. Donc voilà, garder la propriété de son master et être son propre producteur, ça permet aussi, pas tout de suite, mais au fur et à mesure, de s'y retrouver davantage. J'aime cette idée d'être libre. Ensuite, je suis accompagnée par Piaf, qui a un magnifique label qui distribue ce disque et qui le fait avec beaucoup d'énergie. Et je pourrais pas me passer d'eux. Voilà, je fais pas tout toute seule et j'ai une équipe autour de moi, comme attachée de presse, l'assistante de personnes qui réfléchissent avec moi, producteurs de spectacles. Tout ça, on est voilà, une petite équipe qui est très 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 concernée et ça, je pourrais pas faire ça sans eux.
Du coup, parmi les thèmes abordés, vous parliez de votre engagement sur l'environnement et sur l'immigration. Donc, on sent que vous avez eu une envie de mettre en chanson ces engagements. Donc, comment vous expliquez cela ?
Plus que de mettre en chanson mes engagements, que j'ai pas fait pendant longtemps parce que pour moi mes engagements ont été intimes et que je me sentais pas légitime à parler de ça. Et donc pour moi mes engagements ils étaient par conviction idéologique et humaine et humaniste, mais je ressentais pas cette légitimité. Et là je crois que ça devient compliqué, quoi, de pas être traversé et profondément en résonance et poreux par tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entoure, quoi. et l'état du monde et les gens dans la rue et la misère des personnes qu'on croise et les parcours de gens en migration. Pour toutes ces raisons, en fait, ça c'est pas un acte calculé, en fait, c'était un besoin. Et ensuite, cette crise sanitaire a fait que, effectivement, c'était encore plus intériorisé. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est qu'on est des milliers, des millions à ressentir tous la même chose au même moment. Et je me suis dit qu'une chanson, c'était ça, en fait. C'était quelqu'un de tout seul qui essaie d'aller mettre en résonance, qui fait le pari qu'il y a des milliers de personnes qui ressentent cette émotion-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'être un peu... Mon grand idole, c'est Bob Dylan, et ce qui est frappant chez lui, c'est qu'il a réussi, avec des mots très intimes et très personnels, à être très subversif, à dire des choses sur son époque. Et évidemment que j'avais pas le but prétentieux d'atteindre ce mythe et cette manière incroyable qu'il a eu de le faire, tant poétiquement que humainement et politiquement, mais j'ai été un peu m'exercer à me plonger dans ses chansons, à traduire ses textes parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de juste, parce que c'était jamais moraliste, c'était jamais objectif, c'était toujours très subjectif et dans une certaine colère et une certaine poésie radieuse aussi. Et j'avais envie d'aller effleurer ça, voilà. J'avais envie de dire quelque chose de « moi, je suis profondément chamboulée par ce qui se passe et je vais vous raconter ça ».
Votre tournée a commencé depuis le 13 août, c'est ça ?
Oui, c'était une avant-première le 13 août, oui, depuis le mois de septembre. Oui, okay.
Donc, est-ce que vous sentez, depuis le début de votre tournée, vous sentez une certaine pression par rapport à la crise sanitaire sur vos concerts ?
J'ai eu la chance que mes concerts, qui sont des concerts assis, et les remplissages n'ont pas eu à subir de report sur cette tournée. Et ensuite, oui, d'une ville à l'autre... c'est pas pareil en termes de remplissage. Il y a des salles qui se remplissent très bien, d'autres moins. Donc, ça fait un peu bizarre au début. Mais je crois que tous, j'ai la sensation qu'il y a une certaine sérénité en même temps de se dire on fait quelque chose de bien. Et on fait en sorte que le spectacle ait lieu. Et c'est ça qui compte le plus. C'est qu'on soit là. Et les gens qui sont là, ils ont... Donc, parfois, c'est plein et c'est merveilleux. Et puis, quand c'est moins plein, on se dit, les gens qui sont là, ils ont fait cet effort sur peut-être leur peur quand ils écoutent les infos, leurs inquiétudes, on est tous tombés dans une espèce de confort où finalement, enfin, de confort bizarre, un peu anesthésié par ces confinements où finalement, regarder les choses sur Internet. Et donc, aller à un concert aujourd'hui, c'est presque un acte militant, c'est un acte de vie. On prend moins de risques à aller au spectacle que d'aller dans les grandes surfaces, peut-être dans un train. Donc, c'est une heure et demie, où vous êtes assis à côté de quelqu'un avec un masque et vous prenez quelque chose qui vous remplit et qui vous fait réfléchir ou qui vous donne de la joie, qui vous change les idées. Voilà.
Et donc, je suppose que ça doit être un soulagement pour vous de retrouver le public.
Ouais, un immense soulagement. Un immense soulagement et faut pas que ça s'arrête, quoi. Surtout pas que ça s'arrête. Et c'est tellement important. Moi, j'ai le souvenir d'une maman qui n'a pas pu rester au concert. Elle est venue me voir, je lui ai dit « mais restez ». Et elle m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas faire garder son enfant, qu'il y avait des difficultés, que c'était compliqué de le faire garder, mais qu'elle voulait juste me dire à quel point ma musique comptait et lui faisait du bien. Et j'étais si triste qu'elle ne puisse pas rester. Et je pense que c'est pour ces gens-là, en fait, pour ces gens... qui viennent et qui se déplacent et qui ont besoin de nous, et nous, on a besoin d'eux. Voilà, c'est une joie. On a tellement de chance de vivre ça.
Et elle se produira jeudi au Carré à Château-Gontier. Vous pouvez toujours réserver vos places sur le site du Carré, allant de 25,50 € à 30,50 €. Et avant d'écouter la chronique Maison de l'Europe, on va d'ailleurs écouter une musique présente dans l'album Icare d'Émilie Loiseau avec Eldorado.
Tu verras, tu riras quand elle explosera. La bombe, tu seras si loin de là. Tu riras, tu verras quand elle explosera. Tu verras, tu riras si loin de là. Dans le bras vers le large, au bout de ton doigt, l'Eldorado est là, tout changera. Tu verras, tu riras, tout va commencer. La vie que tu auras si loin de là. On a ta vie devant toi. Laisse-moi, laisse-le tout.
sur mon cœur, il n'est plus peur. Si on se sort de là, tu seras beau et fort. Tu verras, tu riras, si loin de là. Dans le bras vers le large, au bout de ton doigt, l'Eldorado est là, tout changera. Tu verras, tu riras, tout va commencer. La vie que tu auras, si loin de là. Au diable qui est chaud, ce soleil de plomb qui tape sur ta peau et sur ton front. Oui, je sais qu'on est trop bas sur ce bateau. Oui, je sais que le poids, mais laissez-moi. Dans le bras vers le large, au bout de ton doigt, l'Eldorado est là, tout changera. Tu verras, tu riras, tout va commencer. La vie que tu auras, si loin de là. Est-ce que tu dors?
Avec l'un de ses derniers titres, Eldorado, Émilie Loiseau, que vous pourrez retrouver sur scène jeudi, donc dans 3 jours, à Château-Gontier, sur la scène du Carré jeudi soir. C'est la première de cette saison, une chronique de la Maison de l'Europe qui sera diffusée donc à partir d'aujourd'hui, un lundi par mois, sur un thème ayant trait de près ou de loin à la citoyenneté européenne. Et aujourd'hui, on parle allemand, enfin presque, hein, puisque vous allez l'entendre, moi je ne sais pas du tout parler allemand, mais en tout cas, retrouvez tout de suite cette première chronique de la Maison de l'Europe. Et on retrouve aujourd'hui, lundi, la première chronique de la Maison de l'Europe, chronique mensuelle qu'on retrouvera un lundi par mois, et dans le cadre de la journée franco-allemande qui est célébrée chaque année le 22 janvier, donc il y a quelques jours, la Maison de l'Europe est allée à la rencontre des collégiens du département Judith pour promouvoir l'apprentissage de l'allemand et les échanges franco-allemands.
Oui, ces rencontres ont été organisées en partenariat avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui chaque année soutient des initiatives à l'occasion de la journée franco-allemande. C'est une journée qui a vocation à mieux faire connaître la langue et la culture de l'Allemagne en France et vice-versa. Et la Maison de l'Europe, en tant que point d'information de l'OFAGE, essaye chaque année d'organiser des ateliers à cette occasion. Alors cette année, nous sommes allés rencontrer 14 classes de 6e dans les collèges Sainte-Thérèse à Laval, Le Grand Champ à Gréambouère et Saint-Michel à Château-Gontier-sur-Mayenne. Et nous leur avons proposé différentes activités donc aux élèves pour qu'ils découvrent l'Allemagne et son identité à travers ses villes, ses monuments, sa gastronomie, ses marques connues, sous forme de rallye par exemple. Donc certains élèves ont aussi participé à un quiz pour découvrir la manière dont est célébré le carnaval en Allemagne, et on leur a appris un petit peu à tous à se présenter en allemand. On a la chance aussi à la Maison de l'Europe d'avoir une équipe bilingue, mais surtout cette année d'accueillir une jeune volontaire allemande de 19 ans, Léa, qui effectue une mission à Habitat Jeune à Laval, dans le cadre du Corps européen de solidarité, ce qui permet de rendre les activités plus concrètes pour les élèves. Et puis, finalement, tout au long de ces activités, le but, c'était de montrer aux élèves qui ont malheureusement tendance à délaisser l'apprentissage de l'allemand qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles apprendre cette langue peut être un réel plus.
Et forcément, on se doute de la question que je vais poser. Pourquoi apprendre l'allemand? Justement, quelles sont ces bonnes raisons?
Alors, tout d'abord, je dirais que l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Et c'est un voisin direct de la France, donc il y a beaucoup d'échanges entre ces deux pays. Mais en plus, l'allemand est parlé en Autriche, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et au Liechtenstein et compte plus de 100 millions de locuteurs natifs en Europe. C'est d'ailleurs la langue qui en compte le plus en Europe. Ensuite, ces pays sont les partenaires privilégiés de la France et la connaissance de l'allemand est donc un réel avantage sur le marché du travail, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'ingénierie, de la recherche ou encore du commerce. Apprendre une langue, c'est aussi avoir accès à la culture des pays qui lui sont associés. Et donc là, il y a aussi de nombreuses choses intéressantes à découvrir.
Mais l'allemand, finalement, est-ce que c'est si dur que ça? Parce que bien souvent, on a un peu ce cliché que l'allemand est dur à apprendre. Que peut-on dire aux personnes qui ont peur de se lancer?
Il faut leur dire qu'il s'agit d'une langue qui est très structurée et logique, ce qui facilite son apprentissage. En plus, elle partage des racines communes avec l'anglais, et comme c'est une langue qui est obligatoire à l'école, l'apprentissage simultané de ces deux langues permet d'enrichir rapidement son vocabulaire. Et puis, pour ceux qui sont très motivés et qui souhaitent s'immerger dans la langue et la culture, il existe plusieurs programmes de lofage dont je parlais tout à l'heure, qui permettent d'aller vivre dans une famille allemande et d'y étudier pendant une durée de 3 à 6 mois, puis d'accueillir un correspondant allemand pour la même durée, ce qui permet finalement de progresser très vite. Et ces programmes sont accessibles dès le collège, c'est d'ailleurs pourquoi au cours de la semaine, nous avons également rencontré les élèves de 4e et 3e du collège Pierre Dubois pour leur en parler. Voilà, donc pour les élèves qui seraient intéressés, ne pas hésiter à nous contacter, la Maison de l'Europe, et on peut les renseigner et les accompagner dans leur projet de mobilité.
Évidemment, merci beaucoup Judith. La prochaine chronique sera à retrouver au mois de février, là aussi un lundi. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local. Merci Andy, à demain.
Merci à toi, à demain.
On se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude, mais avant restez avec nous puisqu'à 19h il y aura Solénoïde comme tous les lundis, suivi aujourd'hui à 20h de la discothèque de la BD et de la Baronne du Jazz. Nous donc on se retrouve demain mardi, je vous souhaite une très belle journée.